Vous êtes sur RTL.
Place à l'info, RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
La vague, tenir le vent. Quand c'est Hugo Frey qui le chante, ça nous réjouit. Santiano, évidemment. Hugo Frey qui sera avec nous tout à l'heure à partir de 18h35 en direct. En revanche, tenir le vent et tenir la vague en ce moment, c'est pas simple. Ça a tangué, notamment en Conseil des ministres tout à l'heure. On va vous raconter tout ça. Et puis, on parlera des jeunes. Comment les intéresser au régional? Il paraît qu'il va y avoir une campagne éclair sur Twitter. Intérêt éclair et efficace. On en parlera à 18h15 avec Sarah El Haïry. C'est la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Bonsoir, Amandine Bégaud.
Bonsoir, Thomas. Bonsoir à tous.
Découvrons avec vous les autre grand titre dans l'actualité de ce mercredi 23 juin, s'il vous plaît.
Et à la une ce soir, le variant indien qui fait des siennes dans les Landes. Jean Castex et Olivier Véran se rendront sur place demain. Dans ce journal également, le crédit d'impôt instantané. Il entre en vigueur ce mois-ci à Paris et dans le Nord. Et puis du foot, bien sûr, ce soir, Portugal-France. Gros match, on l'espère. L'affiche, en tout cas, est plus que prometteuse. Ce sera bien sûr à suivre sur RTL.
La météo, Peggy Broche. Bonsoir, Peggy.
Bonsoir, Thomas.
Les orages encore présent demain.
Exactement, entre le massif central et le nord-est le matin, du sud-ouest aux frontières de l'est l'après-midi. Ils seront plus violents entre l'Alsace-Lorraine et la région Rhône-Alpes. Et il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on va retrouver des éclaircies sur le nord-ouest, toujours très beau près de la Méditerranée. Tout ça sous des températures qui vont rester fraîches, sauf dans le sud-est. De 18 à Cherbourg à 28 à Montpellier, 21 à Paris, Nancy et La Rochelle. Et je rappelle que l'heure est toujours en vigilance orange cru.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et pour commencer, direction donc les Landes, alerte ce soir là-bas au variant Delta, le variant indien. Il est dans ce département plus présent qu'ailleurs en France, c'est ce qu'a indiqué tout à l'heure Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.
Dans les Landes, le variant Delta représente 70% des cas positifs détectés. Ce même département est par ailleurs le seul département où nous observons une hausse de l'épidémie et le seul département de l'Hexagone à être passé au-dessus du seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Ce département des Landes a connu une augmentation de son taux d'incidence de l'ordre de 10% sur une semaine.
Bonsoir Philippe de Maria.
Bonsoir.
Un cluster a notamment été identifié dans un EHPAD à Pontonc-sur-l'Adour. C'est entre Dax et Mont-de-Marsan. 21 des 23 résidents contaminés étaient pourtant tous vaccinés.
Oui, et complètement vaccinés avec une deuxième injection de Pfizer en février dernier. Et ces cas sont liés au variant Delta, me confirme à l'instant l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Cet établissement public héberge 62 personnes et a dû remettre en place ses protocoles Covid. Sarah Gonzalez est la directrice de cet EHPAD.
On a testé des résidents. L'un d'entre eux était symptomatique depuis le 5 juin. Donc le médecin ne pensait pas du tout au Covid et c'est pour ça qu'il ne l'avait pas fait tester avant. Mais donc là, pour l'instant, on ne sait pas trop d'où ça vient quoi, encore. Il y a 3 personnes hospitalisées. Les autres, ça va. On était très surpris, oui. On a fermé l'établissement aux visites et on les a tous isolés en chambre. Demain, on organise un nouveau dépistage collectif des personnes qui sont négatives. On se sent vraiment complètement en décalage avec ce qui se passe, le fait que le port du masque ne soit plus obligatoire. Voilà.
Et la directrice s'attend à de nouveaux cas positifs. Elle a demandé des renforts en personnel soignant. Et une enquête est en cours pour tenter de retracer les origines de cet inquiétant cluster landais.
Philippe Demaria, correspondant RTL dans le Sud-Ouest. Cette situation pourrait bien relancer, Amandine, le débat autour de la vaccination obligatoire pour les soignants.
Oui, la mesure existe en Italie. Les réfractaires là-bas sont désormais sanctionnés, Olivier Bonnel.
Les sanctions sont claires. Pour ceux qui auraient des pathologies incompatibles avec les vaccins, c'est une réaffectation à des tâches sans contact avec des patients qui les attendent. Pour les anti-vaccins, en revanche, une suspension de leur activité avec retenue de salaire jusqu'au 31 décembre. L'Émilie-Romagne et la Ligurie sont les deux régions d'Italie où l'on trouve le plus de soignants encore non vaccinés. L'agence régionale de santé Ligure a envoyé pas moins de 11 000 courriers demandant une vaccination rapide. La traque aux insubordonnés est lancée. Hôpitaux ou maisons de retraite sont invités à signaler leur personnel encore non vacciné. Si les no-vax restent une petite minorité, les sanctions annoncées font grincer certaines dents. C'est un acte très grave qui nie la liberté de choix individuel, ainsi dénoncée la principale association de consommateurs en Italie. Prête au bras de fer, elle propose une assistance juridique aux soignants récalcitrants.
Olivier Bonnel, le correspondant de RTL en Italie. Cette crise sanitaire, elle était bien sûr aujourd'hui au menu du Conseil des ministres. Ce matin, juste avant, les participants ont assisté à une passe d'armes pour le moins musclée entre deux poids lourds du gouvernement. Bonsoir Vincent Deroger.
Bonsoir.
Un clash entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti.
Absolument, un échange musclé et très sonore juste avant le Conseil des ministres. La scène se déroule dans la salle des fêtes de l'Élysée. Emmanuel Macron, lui, n'est pas encore arrivé, mais plusieurs ministres gênés assistent à l'altercation dévoilée par nos confrères de CNews. Éric Dupond-Moretti, candidat éliminé piteusement dans les Hauts-de-France au premier tour des régionales, s'approche alors de Gérald Darmanin. Le ton monte tout de suite, il lui reproche ses félicitations et son soutien ostensible à Xavier Bertrand, son adversaire dans le Nord. Le garde des Sceaux parle même de trahison. Ce qui ne passe pas, c'est que Gérald Darmanin a également vanté le bilan de Xavier Bertrand. Mais la réplique du premier flic de France est tout aussi cinglante. Commence déjà par gagner une élection, lui dit-il. Les huissiers du palais sont même obligés d'intervenir pour que les deux hommes baissent d'un ton, car le Premier ministre et le Président de la République sont en train d'arriver pour le Conseil des ministres. Commentaire d'un des membres du gouvernement qui a assisté à la scène, Éric Dupond-Moretti découvre la politique et il découvre aussi Gérald Darmanin. En tout cas, on est loin de la photo idyllique des deux ministres, justice et intérieur, prise il y a quelques semaines dans leur ministère.
Scène de ménage en pleine salle de conseil de ministre, ça ne doit pas arriver souvent, ça, quand
pas
même.
Pas souvent, hein. Et c'était juste avant, ça n'a pas pu continuer après.
Merci
mais ça va
beaucoup.
Sûrement se poursuivre.
Merci Vincent. Vincent Derosier du service politique de RTL à Beauvais. Le corps de l'adolescent de 17 ans porté disparu après les orages d'avant-hier a été retrouvé cet après-midi. Dès hier, le ministre de l'Intérieur, qui s'était rendu sur place, avait dit craindre le pire.
À Nantes, suite du procès du quadruple meurtre de la famille Troadec.
Et la cour d'assises s'est penchée aujourd'hui sur le fameux trésor, celui qui aurait poussé Hubert Caoussin à commettre ce carnage. Anne Le Hénaff, l'accusé, reste persuadée que ce magot existe bien.
Ah oui, contre toute vraisemblance, même son ex, Lydie Troadec, à ses côtés dans le box, n'y croit plus. Hubert Caoussin, lui, dit que cela a toujours existé. C'est René Troadec, la patriarche, sa belle-mère, qui aurait planté la graine dans son cerveau. Elle s'interroge sur le train de vie de son fils et de sa belle-fille. Je sais pas où il trouve le fric. La présidente demande, elle vous dit que son mari a trouvé un magot et que Pascal et Brigitte l'ont volé ? Non, c'est moi qui émets l'hypothèse. Et là, la croyance s'installe ? Oui. Après cela, tout a du sens. On ne saura jamais. Mais s'il a bien trouvé quelque chose, ça a été récupéré. Volé par Pascal et Brigitte ? Oui. Je n'ai pas d'autre explication. Les deux couples se brouillent à ce sujet et Caoussin tombe dans une profonde paranoïa. Il se cache, achète une ferme sans rien dire. Il ne fallait pas que Pascal et Brigitte découvrent où il vivait avec sa compagne et son fils. J'avais peur qu'ils envoient un tueur. Mais pourquoi ? Pour le magot, notre fils est un ayant droit, on commence à les gêner parce qu'on les a démasqués.
Anne Le Hénaff pour ce compte-rendu d'audience à la cour d'assises de Nantes pour RTL. On marque une petite pause et ensuite c'est France-Portugal, finale de l'Euro 2016, on s'en souvient, on avait perdu. Ce soir c'est un match du premier tour, mais un match à enjeu quand même, à tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal Amandine Bégaud. Après le prélèvement à la source, voici le crédit d'impôt à la source et c'est une nouvelle simplification.
Oui, et cela concerne les particuliers employeurs, ceux qui ont une nounou à domicile, une femme de ménage ou encore un jardinier. Ils n'auront plus à payer tout le salaire de leur employé. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
La déduction fiscale de 50% est désormais instantanée.
Absolument, c'est un gain de pouvoir d'achat mensuel pour les particuliers employeurs des départements du Nord et de Paris uniquement pour l'instant. Concrètement, jusque-là, l'employeur en fait, il payait par exemple 12 euros de l'heure avec les charges et récupérait 6 euros de crédit d'impôt quelques mois plus tard. Et bien désormais, l'employeur ne payera que 6 euros, c'est immédiat, et rien ne change pour l'employé qui touchera bien entendu toujours son salaire complet. Alors pour bénéficier de ce service, il suffit de déclarer les heures payées sur le site de l'URSSAF grâce à la fonction CESU+, vous le verrez, c'est assez simple sur ce site, et cocher la petite case crédit d'impôt. Vous devez déclarer chaque mois les heures et le salaire de votre employé, le calcul il est fait automatiquement. L'employeur connaît aussi le montant exact des aides dont il a bénéficié et le montant encore disponible sur l'année en cours. Et si vous n'habitez pas dans le Nord ou à Paris, eh bien ne désespérez pas pour autant, puisque ce service vous sera proposé au cours de l'année 2022.
Merci beaucoup Arnaud, c'était très clair Arnaud Touche, et effectivement le gain de pouvoir d'achat n'est pas anodin. Le
on
foot
passe au foot évidemment, et avant d'évoquer le match des Bleus ce soir, zoom sur l'autre choc de la soirée.
Allemagne-Hongrie et cette polémique autour des couleurs LGBT. L'UEFA a, et on vous en parlait dès hier, refusé que le stade de Munich arbore le drapeau arc-en-ciel pour protester contre la politique de la Hongrie à l'égard des homosexuels. Et bien depuis l'affaire vire à la crise diplomatique. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d'ailleurs mis en garde la Hongrie.
Cette loi hongroise est une honte. Ce projet de loi est clairement discriminatoire envers les personnes en raison de leur orientation sexuelle. Il va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'Union européenne. La dignité humaine, l'égalité et le respect des droits de l'homme, c'est le fondement de nos valeurs. Donc j'utiliserai tous les pouvoirs de la Commission pour veiller à la garantie des droits des citoyens. Qui que vous soyez, où que vous soyez.
Des propos recueillis pour RTL par Bénédicte Tassard et qui ont fait bondir la Hongrie. Hein. Une honte, a dit le gouvernement hongrois. Ce soir, 12 000 spectateurs ont prévu malgré tout d'arriver au stade avec un drapeau aux couleurs LGBT.
Et alors sur le plan sportif, le match de la soirée, c'est évidemment Portugal-France.
Un remake de la finale de l'Euro 2016. Philippe Sanfourche, bonsoir. Vous êtes sur place pour RTL. Les Bleus, on l'imagine, ont bien l'intention de prendre leur revanche.
Non, l'Euro 2016, c'est un lointain souvenir. Maintenant, pas de place pour la mélancolie. C'est l'instant présent qui dicte le haut niveau. Et la vraie frustration des Bleus, elle date d'il y a 4 jours. Ce match nul face à la Hongrie, sans conséquence, certes, sur le plan mathématique, mais qui, avec le recul, n'a pas plu du tout à Didier Deschamps, ni à son adjoint Guy Stéphan.
C'est un match qu'on n'a pas réussi. On n'a pas mis suffisamment de mouvement, on n'a pas mis suffisamment d'agressivité, on n'a pas été efficace.
Réagir donc dans la manière et le résultat objectif numéro 1 ce soir du capitaine Hugo Lloris.
Tout ce qu'on a pu vivre depuis le début de ce tournoi nous servira de repère pour la suite en termes de confiance. Ce sera un match engagé et je crois que c'est important pour nous de bien finir cette phase de poule avec un résultat positif.
D'où cette composition d'équipe toilettée mais pas bouleversée ce soir avec des enjeux individuels importants marqués pour Benzema et Mbappé, rassurés pour Varane et Pogba, rayonnés toujours pour Griezmann et Kanté. Bref, l'équipe de France veut envoyer un message ce soir.
Et Philippe Sanfourche, l'un des envoyés spéciaux d'RTL à Budapest et qui nous fera bien sûr vivre ce match sans tout à l'heure RTL Foot spécial Euro. C'est dès 20h. En ce moment même, la Suède, qui est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, affronte la Pologne. On est à 13 minutes de jeu et les Suédois mènent 1-0. Dans l'autre match, Espagne-Slovaquie, c'est toujours 0 partout.
Les Espagnols
partout.
Qui viennent de manquer un pénalty.
Eh oui, vous
c'est
avez
Peggy
bondi.
Broche qui m'a dit ça parce qu'elle regarde d'écouter le journal.
Oui, vous voyez comme je suis.
C'est fou, hein. La bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Une bonne nouvelle pour les fans de Mylène Farmer. Elle va reprendre sa tournée des stades. Ce sera pour juin 2023. Mais ça se prépare.
C'est pas une bonne nouvelle, c'est de la science-fiction.
Les billets, eux, seront mis en vente au mois d'octobre prochain. Dès le début du mois d'octobre. Pour juin 2023. Je crois que ça s'arrache très vite. C'est pour ça qu'il vaut mieux prévoir, anticiper.
On commence par arracher, puis après on attend.
Oui, mais ça se met.
Comme votre retour tout à l'heure à 18h30, je le rappelle.
C'est ça, n'en rajoutez pas.
Vous êtes la Mylène Farmer de l'actualité. Merci, Amandine. Elle est la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Et pour les faire voter, les jeunes, il y a du boulot. Sarah El Haïry, l'invitée d'RTL Soir, c'est tout de suite.
RTL Soir, Thomas Otto. RTL Soir, Thomas Otto.
Elle est la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Vaste chantier. Elle est aussi porte-parole du Modem, Sarah El Haïry, l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Sarah El Haïry.
Bonsoir.
84% des 18-24 ans n'ont visiblement pas voté dimanche dernier. Le gouvernement veut lancer une campagne de communication éclair sur les réseaux sociaux pour qu'ils se déplacent dimanche. On met quoi dans une campagne éclair ?
De manière très concrète, il y a un second tour et je crois qu'il faut le rappeler. Là, c'est plus l'appel au sursaut démocratique qu'il faut, c'est un électrochoc. Quand on a autant de jeunes qui ne se déplacent pas, 87% des 18-24 ans, 83% des 24-34 ans, il y a besoin de ce sursaut.
Et vous allez faire quoi ? Vous allez faire un tweet en disant les gars, faut y aller ?
Non, en éclair, c'est rappeler qu'il y a une échéance, que si on ne s'est pas exprimé au premier tour, on peut encore s'exprimer au deuxième tour, qu'on peut faire des procurations et que les compétences de la région, les compétences du département, ce sont des compétences de tous les jours.
Je suis jeune, j'ai 18-19 ans, j'ai pas voté au premier tour. Qu'est-ce que vous me dites pour que j'y aille dimanche ? Et je m'en fous. Voilà, je dis, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc, ça me parle pas, il me parle pas. Qu'est-ce que
vous
me
dites ? De manière très concrète, je dis, les transports, la mobilité, le TER, les lycées, les questions de solidarité, tout ça, c'est les conseils départementaux ou les conseils régionaux. Et je dis très concrètement, dimanche, il y a la possibilité encore de s'exprimer. Donc ne laissez pas les autres décider pour vous. Parce qu'on est parti pour un mandat entier. Un mandat entier, c'est le visage de l'économie. Quand on a 18 ans, vous savez quoi ? Les années qui arrivent, c'est les années de formation, c'est les années d'économie. à quel territoire on veut. Est-ce qu'on veut un territoire décroissant ou est-ce qu'on veut un territoire...
Mais est-ce que vous ne vous réveillez pas un tout petit peu tard pour intéresser les jeunes aux élections ? Parce que c'est bien de faire une campagne sur les réseaux là, le jeudi pour le dimanche, mais honnêtement, s'ils votent pas, c'est aussi parce qu'ils doivent avoir l'impression que leur voix ne sert à rien, qu'on ne les écoute pas le reste du temps.
Là, c'est là où je parlais d'électrochoc.
Vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord avec cette sensation qu'ils peuvent avoir de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus ?
Je l'ai entendu moi-même. Ouais. Ils l'ont dit. Ils disent le pire du pire pour une démocrate comme je suis. Moi, je viens d'une famille, le Modem, qui appelle deux choses. Un, à continuer ce saisissement de la démocratie. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire comment on modernise la manière de voter, le vote par correspondance, le vote par anticipation.
Vous êtes pour le vote électronique, par exemple, ou pas ?
Mais bien sûr.
Alors, soyons clairs, est-ce qu'il faut le mettre en place dès 2022 ? Parce que tout le monde dit dans la majorité, ah oui, ça serait bien, mais on ne va pas y arriver.
Vous savez quoi ? Moi, je vais être très, très claire et très concrète. Ce sont des propositions de ma famille politique depuis des mois. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut moderniser la manière de voter.
Mais est-ce que vous dites, il y a non pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultats. Il faut qu'en 2022, dans moins d'un an, on puisse voter de manière électronique.
Moi,
oui ou non ?
Moi, ce que je dis, c'est que oui, il faut tout faire pour, évidemment. Et au-delà de ça, construire d'ores et déjà ce qui va permettre aux jeunes d'aller se saisir et d'aller voter. Parce que moi, ce que je ne veux pas entendre, et ce que malheureusement on entend, c'est que les jeunes ne sont pas engagés, que les jeunes se fichent de tout. C'est faux. Moi, j'ai vu des jeunes pendant la crise sanitaire et au-delà
s'engager dans des... Ils ne se fichent pas de tout, ils se fichent de ce que leur disent les politiques.
Non, c'est même différent en réalité.
Ils s'intéressent à plein de trucs, les jeunes.
Ils s'engagent, ils font des choses, ils font des marches pour le climat, ils s'engagent dans des assos. J'ai vu des jeunes s'engager auprès des pompiers. Des jeunes sont engagés. Par contre, là où on a un sujet, c'est qu'ils ne croient pas au vote, à l'engagement démocratique.
Est-ce que vous êtes favorable au vote à 16 ans ?
Écoutez, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut ouvrir le débat, oui.
Donc oui.
Et demander, moi je crois qu'il faut demander aux jeunes, eux-mêmes, si oui ou non, c'est quelque chose qui les intéresse. Ce que j'ai vu depuis des années, ce sont des responsables politiques ou des organisations politiques dire il faudrait ceci ou il faudrait cela. Moi je crois qu'il faut dire halte, demander aux jeunes eux-mêmes qu'est-ce qu'ils souhaitent. Il se trouve que dans les jours qui arrivent, après les élections évidemment, je réunirai les jeunes des responsables et des mouvements politiques et des mouvements de jeunesse pour construire avec eux ce sursaut démocratique que c'est pas que j'appelle de mes voeux, c'est qu'il est vital. Il est vital pour notre pays, il est vital pour la vie démocratique de notre société.
Sarah El Haïry, pour tenter de créer un lien entre les jeunes et le pays, il y a le SNU, le Service National Universel. La saison 1, c'était en 2019, en mode expérimentation avec 2000 jeunes. L'an dernier, le Covid avait eu raison, et on le comprend, de la saison 2. Et là, ça vient de reprendre avec 18 000 jeunes qui participent depuis le début de la semaine à un stage de cohésion de 15 jours. Alors, le principe, c'est qu'ils sont dans un département qui n'est pas le leur, et ils sont mélangés. Quelle est l'ambition de ce SNU, ce Service National Universel ?
Créer une France forte, créer une cohésion sociale plus forte. De manière très concrète, le SNU, c'est quoi ? 15 jours de séjour de cohésion, 15 jours de mission d'intérêt général où les jeunes s'engagent.
84 heures.
Exactement, 84 heures. Et ensuite, une étape 3, qui est finalement cette évaluation de la réussite, qui est l'engagement, un engagement long, dans une asso, chez les pompiers, chez la réserve de la gendarmerie ou autre. Mais un engagement commun. Pourquoi ? Parce qu'à quel moment un jeune de Paris croise et partage du temps avec un jeune d'Aurillac ou de chez moi à Nantes. À quel moment des jeunes au parcours de vie différents se font ensemble, lèvent le drapeau ou chantent la Marseillaise, mais pas que, apprennent par exemple les gestes de premier secours, se rendent compte de la nécessité aussi de voter. Et c'est là où on
apprennent
revient
le
à l'abstention.
Collectif en quelque sorte.
Bien sûr, un temps collectif, un temps d'unité, mais un temps où, comment dire, on se rend compte que on est peut-être un petit peu différent, mais ce qu'on a de plus cher et de plus fort, c'est la France, c'est l'avenir en commun.
Il n'y avait pas un truc formidable qui s'appelait le service militaire qui faisait ça ? On n'est pas en train de courir après ça, en fait, qui avait été supprimé par Jacques Chirac à l'époque ?
On garde le meilleur du service militaire, le meilleur de l'école et le meilleur de la colo. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans le SNU, il n'y a pas d'apprentissage au maniement aux armes, parce que ce n'est pas des appelés. Aujourd'hui, on est encore sur des volontaires.
Et ça, justement, c'est sur la base du volontariat. On se dit forcément que ce ne sont pas forcément ceux qui en ont le plus besoin qui s'inscrivent. Cette année, j'ai regardé sur les 18 000, je crois qu'il y a 5% qui sont issus des quartiers populaires.
Exactement, et en même temps, c'est pas beaucoup. Et on est parti les chercher. C'est pour ça que la campagne de recrutement a été hyper importante.
Vous n'avez pas trouvé 5%, c'est quand même pas beaucoup.
On en a quand même mobilisé un certain nombre. Ouais. Par contre, là où je suis assez fière quand même, c'est qu'il y a 56% de filles, il y a plus de filles que de garçons. Il y a aussi un tiers de jeunes qui viennent des territoires ruraux, un tiers qui viennent des territoires ultra-urbains, d'autres qui viennent des territoires périphérique de nos zones urbaines.
On a quand même pour l'instant l'impression d'un laboratoire compte tenu du nombre de participants. Est-ce qu'il sera vraiment universel un jour, c'est-à-dire pour tous les jeunes d'une génération, pour les 800 000 jeunes à peu près? Ça sera universel?
Il a vocation à l'être.
Oui, mais vocation, c'est bien, mais c'est quand?
Bien sûr, c'est le projet du président de la République.
Il faut remettre... C'était sa promesse de campagne.
Bien sûr.
Et on arrive aux fins de quinquennat. Donc là, c'est quand?
Je remets ça juste en perspective. Première année 2019, 2000 jeunes. Mmh. Cette année 2020, vous avez bien vu l'année, c'est une situation
sanitaire. Il n'y a pas de sujet sur 2020.
Donc 2021, on arrive à 18 000 jeunes. L'année prochaine, ça sera certainement au-delà. Il nous manque
une seule
étape.
C'est quoi l'objectif pour l'année prochaine?
Bien au-delà des 18 000 jeunes.
Au-delà.
Il n'est pas encore posé techniquement pour une raison toute simple, Thomas Soto. C'est qu'à la fin de cette semaine, on va faire un bilan. C'est la première fois où on a des services nationaux universels sur tous les territoires métropolitains et ultramarins.
Sarah Ellery, c'est quoi l'objectif d'universalité? C'est pour quand, en vrai? C'est dans un an, dans trois ans, dans quatre ans, c'est à la fin du prochain quinquennat, s'il y en a un, c'est quoi?
L'idée, je pense que pour être assez opérationnel, on est entre 2024 et 2025, après un débat parlementaire. Ouais. Il faut d'abord un débat qui nous permette d'asseoir...
Et là, il sera obligatoire à ce moment-là?
Il a vocation à l'être pour garantir son universalité la plus complète. L'idée est simple. Des femmes, des jeunes garçons et des jeunes filles se croisent, font ensemble, découvrent aussi c'est quoi la chance d'être en France, découvrent des hommes en uniforme en dehors du quotidien, découvrent aussi c'est quoi des élus, et finalement, vous savez, renforce ce sentiment d'appartenance à la France, de voir c'est quoi l'État, et finalement aussi.
Mais on va vous donner le budget pour ça, parce que ça coûterait combien? Si on fait le calcul vite fait, je crois que c'est 2 200 € à peu près par jeune aujourd'hui, 800 000, ça doit faire 1,6 million, 1,8 million, quelque chose comme ça.
C'est un milliard. C'est un des plus beaux investissements pour la jeunesse. La jeunesse est la priorité du président de la République et de ce gouvernement.
Et vous avez garanti que vous aurez les moyens pour ça?
C'est le président. Cette année, j'ai déjà 63 millions pour le mettre en œuvre.
Moi, je vous parle d'1,6 milliard.
Il n'y aura jamais une économie sur l'investissement qui est la priorité de la jeunesse. Vous savez, notre sujet principal, c'est comment on fait nation. Comment, en recréant des moments forts qui n'existent plus aujourd'hui, eh bien, on renforce le faire ensemble. Comment on crée de la fierté d'être français? Comment on se retrouve dans ces moments-là? Le SNU est une des étapes. En plus, vous savez, pendant ce SNU, on voit des jeunes qui n'étaient jamais partis en vacances. Des jeunes qui ont besoin, par exemple, de lunettes ou de soutien ou d'orientation. On leur donne les cartes qui leur permettront de construire leur avenir. Je crois que c'est la naissance d'une des plus grandes politiques jeunesse qu'on n'ait pas eue depuis des dizaines d'années.
Vous êtes aussi, je le disais, Sarah Ellery, la porte-parole du MoDem, alliée de la majorité. Vous aviez dit, quelques jours avant le premier tour des régionales, croire viscéralement au Front républicain en appelant chacun à prendre ses responsabilités. Ce sont vos mots. Regrettez-vous que la liste En Marche se maintienne en région Bourgogne-Franche-Comté où la liste RN menée par Julien Oudoul est en position de l'emporter?
Vous savez, moi, c'est très simple. Le Front républicain, moi, je pense qu'il n'a ni qualificatif ni explication. Il doit permettre à chacun de ne pas laisser les extrêmes passer. Il se trouve que dans ce cas-là, mais comme à chaque fois que ça a été nécessaire, nous avons appelé au rassemblement. Le Front républicain, ça se fait avec deux personnes. Ceux qui sont en tête, ceux qui sont en pole position et ceux qui apportent leur rassemblement. Donc, moi,
le Front républicain, ça dit je ne suis pas en position de l'emporter, je m'efface pour favoriser celui qui est quoi
ou
qu'il
j'appelle
en dise.
Je permets le rassemblement. Nous avons tendu la main dans chacune des régions où cela a été nécessaire. Il se trouve qu'aujourd'hui, la situation de notre pays appelle à ce sursaut. L'abstention a été telle que oui, il faut cet électrochoc démocratique dont je parle.
Pour répondre à ma question, vous ne regrettez pas que la liste En Marche se maintienne dans cette région Bourgogne-Franche-Comté où le Rassemblement National peut l'emporter?
Moi, ce que je vois, c'est une liste de la majorité présidentielle qui propose aujourd'hui un rassemblement, de ce que j'ai compris, qui n'a pas été entendu et qui, effectivement, propose une troisième voie.
Donc, vous ne le regrettez pas? Excusez-moi, j'ai besoin de comprendre.
Non, il y a une décision qui a été posée sur cette région-là. Aujourd'hui, le Front républicain, pour moi, est très simple. On permet à chaque fois à la liste qui arrive en tête de rassembler et de créer ce front qui est commun.
Merci beaucoup Sarah Ellery. Et puis on rappelle le site quand même SNU comme service national universel .universel.gouv.fr. SNU.gouv.fr. Merci d'être venu ce soir dans RTL Soir. À suivre, l'œil de Valérie Trierweiler que j'ai vu vous écouter très attentivement et qui se demande elle aussi comment raccommoder le lien entre les jeunes du pays et leur président.
Thomas Soto, RTL Soir.
18h30.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel.
Et à la une, le variant Delta, le variant indien qui commence à faire des siennes dans les Landes. C'est d'ailleurs le seul département où l'épidémie de Covid repart à la hausse. Le seul aussi à dépasser le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Jean Castex et Olivier Véran se rendront sur place demain. Le corps du jeune homme disparu mercredi à Beauvais a été retrouvé cet après-midi. Le lycéen de 17 ans avait chuté dans l'eau avant-hier lors de violents orages qui ont frappé la région. Et puis il y a du foot ce soir. Portugal-France, bien sûr, à suivre sur RTL. Le remake de la finale de l'Euro 2016. On espère que les Bleus feront mieux cette fois. En ce moment même, la Suède, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, affronte la Pologne. Un peu plus de 30 minutes de jeu et les Suédois mènent 1-0. Dans l'autre match de ce groupe E, c'est 1-0 également pour l'Espagne qui affronte donc la Slovaquie.
La météo, Peggy, on radote un peu, mais orage.
Exactement, Thomas. Encore demain. Alors d'abord, entre le Massif central et le Nord-Est le matin, puis entre l'Aquitaine jusqu'aux frontières de l'Est l'après-midi avec des orages localement violents entre le Grand Est et la région Rhône-Alpes, donc prudence. Mais sur le nord-ouest, on ne parlera plus d'orage. Les éclaircies seront de retour, ça fera du bien. Il fera beau également près de la Méditerranée. Tout ça sous des températures encore fraîches. 18 au Havre, 21 à Paris et Rennes, 22 à Lyon, 22 également à Bordeaux, mais 28 à Nice. Il fait beau et chaud près de la Méditerranée. Je rappelle que l'heure est toujours en vigilance orange cru.
Merci Peggy. L'œil de Valérie Trier-Veller, comme tous les mercredis. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Thomas, bonsoir Peggy. Bonsoir.
Alors on a parlé de l'abstention, de la jeunesse, tout ça avec Sarah oui. El-Haïry à l'instant. Vous venez nous parler de ce soir d'Emmanuel Macron et la jeunesse, de ce lien particulier.
Oui, justement ça tombe bien. Vous savez, c'est pas facile pour Macron. Brigitte, son épouse le dit elle-même, Emmanuel Macron n'a jamais été jeune. Et il semble bien que malgré tous ses efforts pour séduire la jeunesse, ça ne marche pas vraiment. Souvenez-vous Thomas, depuis quelques semaines, le président dirige tous ses efforts en direction de la jeunesse. Mmh. On l'a même vu faire une vidéo avec les célèbres youtubeurs McFly et Carlito.
Donc c'est une vidéo qui a quand même eu un certain succès, ça.
Oui, oui c'est vrai. Elle a été vue 500 000 fois en une heure et près de 14 millions de vues en une semaine. Alors oui,
c'est Macron... à peine moins que l'audience d'RTL Soir.
Alors oui, Macron a cassé les codes, mais ça n'a pas cassé des briques pour autant. L'image du président n'a pas changé. Et pourtant, le chef de l'État a aussi annoncé le pass culture, 300 euros pour 800 000 jeunes de plus de 18 ans. Il y avait déjà eu l'opération Un jeune, une solution pour aider les débutants en difficulté avec la crise sanitaire. Et puis la semaine dernière, nouvelle annonce, juste avant les régionales, la fin du masque en extérieur et surtout la levée du couvre-feu.
Et comme je commence à vous connaître et que je lis entre vos lignes, vous pensez que ça n'est pas suffisant ?
Eh ben, la preuve que non. Vous en avez parlé avec la ministre, la génération Z, s'est abstenue de voter à 87%. Et quand elle vote, c'est pour les extrêmes. Alors il a fallu encore les câliner un peu. Le gouvernement a annoncé lundi la réouverture des discothèques et la reprise des grands concerts. Vous savez Thomas, lundi c'était le jour de la fête de la musique. Macron a même reçu Justin Bieber à l'Élysée pour parler de...
La jeunesse.
Comme si le chanteur canadien célébrissime rencontrait les mêmes difficultés qu'un jeune français sans job.
Mais alors, où se situe le problème ?
Il y a un décalage entre le discours et les faits. Souvenez-vous de cette déclaration d'Emmanuel Macron en mai lors d'un déplacement dans la Nièvre.
Je sais ce que cette épidémie et ses mois vous ont volé.
De moments de joie, d'insouciance. Le son n'est pas très bon, alors je continue. Ça va aller de mieux en mieux, a-t-il promis ? Alors oui. Les jeunes ont besoin de gaieté. Mais comme beaucoup, moi j'ai été choquée par ces images des forces de l'ordre chargeant sans ménagement des jeunes lors de la fête de la musique. Bon, la police, elle n'agit pas sans instruction. Hein. Ce n'est pas la police que je vise. On ne peut pas d'un côté dire à la jeunesse « Allez, la vie reprend, je suis avec vous, on va fêter la fête de la musique ensemble » et les empêcher de faire la bamboche.
Ça n'a pas été le cas partout quand même. Hein. Bon, il y a encore des règles sanitaires à respecter.
Oui,
c'est
vrai.
Ceci peut expliquer cela.
Exactement, c'est vrai. Mais après un an de couvre-feu et d'isolement, il faut savoir lâcher la bride, surtout quand on a fait soi-même la fête à l'Élysée. Tous les psys le disent, l'année a fait beaucoup de dégâts chez les moins de 20 ans. Alors on espère ce soir que pour le France-Portugal ou le Portugal-France, on laissera la jeunesse de ce pays exulter comme il se doit.
Bon, et je crois Valérie que vous deviez aussi nous parler un petit peu de Philippe Cavrivière ce soir.
Ah ben non Thomas, puisque je vous parle des jeunes, des vrais, ils n'entrent pas dans cette catégorie.
C'est vrai.
Et puis on va quand même pas parler de Philippe et du Portugal, hein ? Pas ce soir, enfin...
J'ai parlé de leur prophète, Cristiano Ronaldo. Je morfle. C'était pas très fin, j'ai enchaîné les clichés sur les Portugais. Les Portugais qui m'ont découvert avec cette chronique se sont dit « Quel connard !»
Bah tu vois Filou, on peut en dire des conneries, hein, des vannes mal comprises, et puis moi aussi parfois, ça m'arrive d'en dire.
C'est votre petite réponse à sa chronique d'hier soir. Exactement. Ça, hein, Valérie, évidemment. France-Portugal, que les meilleurs gagnent, ça reste du sport, et tout le monde se serre la main ou se fait un bisou à la fin.
Évidemment.
C'est pas très Covid. Merci Valérie.
Bonsoir.
Demain, c'est qui c'est, hein ?
C'est Philippe.
Ouais, à mon avis, il y a un petit risque qu'ils vous répondent, dedans. On dirait Dupond-Moretti et Darmanin, ces deux-là.
Non, parce que nous, c'est quand même amical.
Vous vous aimez pour de vrai. Merci à vous, Valérie. Hugo Frey, il suffit de dire son nom pour avoir illico quelques mélodies en tête. Il sera en concert samedi à la scène musicale près de Paris et entre deux répétitions, Hugo Frey a accepté de passer une tête par RTL Soir. C'est tout de suite et c'est en direct.
Thomas Soto, RTL Soir
avec Hugues Aufray. Bonsoir et bienvenue dans RTL Soir, Hugues Aufray.
Bonsoir.
Je voudrais qu'on parle beauté pour commencer.
Ouais. Beauté ?
Oui, beauté.
Oui,
parce que quand je vois ma tête le matin dans la glace et la vôtre ce soir, je me demande quel est votre élixir de jeunesse. Comment vous faites pour rester un jeune homme de 91 ans ?
Parce que j'ai des dettes.
Ah, c'est ça ?
Oui. Alors comme je suis honnête, il faut que je les rembourse.
Donc vous devez rester en forme.
Voilà. Je dois beaucoup de choses à la vie. Le destin m'a été très favorable et je lui dois beaucoup de remerciements. Donc je travaille beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'âge de 20 ans.
Mais vous avez une vie de moine pour être aussi en forme ou pas ? Non, quand même pas. Une hygiène de vie
Dans l'hygiène de vie naturelle, c'est que je bois pas d'alcool voilà, depuis pas mal de temps, ou très peu quoi, c'est-à-dire je bois un petit verre de vin avec les copains. Je ne fume plus depuis assez longtemps, depuis au moins 50 ans.
Ah, quand même, oui, ça s'appelle assez longtemps.
J'ai arrêté presque à 50 ans. Mais qu'est-ce que je peux vous dire ? À part ça, je suis comme Churchill, but never sport.
Jamais de sport. Jamais
si,
de sport.
Si, vous savez, enfin, la vraie phrase de Churchill, vous
allez-y.
Connaissez ? Mais, je ne fais jamais le sport, mais je fais le marche-pied.
Ah, oui.
Parce que je suis les enterrements de mes camarades.
Et en plus, il fait des imitations. Enfin, vous ne faites jamais de sport, mais je crois que c'est après. Aujourd'hui, vous avez fait 6 heures de répétition. Pour votre concert de samedi.
Oui,
on peut assimiler ça à du sport quand même.
Ouais.
Hein, on va écouter quelques extraits de vos tubes. Stu Ball pour commencer. Tout le monde connaît par cœur, tout le monde chante.
C'était un cheval blanc.
Il y a Santiano évidemment.
Cette femme trois-mâts fin comme un oiseau.
C'est une vieille version. Hein.
Ouais.
On fait mieux depuis.
Bon, elle est bien, moi j'aime bien, j'ai choisi
oui,
moi-même.
C'est l'ancienne.
Mmh.
J'ai fait pas mal de chansons nouvelles. Il y a 7 chansons nouvelles dans mon spectacle.
Il y a un nouvel album et tout ça. Et puis ça marche aussi avec Elle descend de la montagne.
Ah aussi c'est vieux.
Bah ouais, mais c'est bien.
Bah oui.
Est-ce que vous connaissez le point commun à ces trois chansons qu'on vient d'écouter ?
Elles sont chantées dans toute le camp de jeunesse. Tout ce qu'on appelle le scoutisme, tout mouvement de jeunesse.
Puis à l'école aussi, les enfants apprennent.
Oui.
Ça représente quoi pour vous d'être appris par les enfants ? Il y a plein d'écoles qui portent votre nom
voilà,
aujourd'hui.
C'est une dette que j'ai envers le destin, parce que j'ai jamais voulu être chanteur. Je suis devenu chanteur par hasard et par nécessité. Et bien le destin m'a rendu beaucoup m'a récompensé, parce qu'il m'a donné la plus belle des récompenses, c'est d'être chanté par les enfants qui ne savent pas qui est l'auteur, comme dirait Charles Trenet, on ne sait pas le nom de l'auteur. Moi, je suis pas le premier dans les palmarès, le type qui vend le plus de disques en France, mais je le dis avec modestie.
Vous avez quand même vendu quelques-uns. Hein.
Oui, non, mais je vais dire franchement, et avec modestie, un jour, on a demandé à Gainsbourg, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle vague ? Il a dit, la nouvelle vague, c'est moi. Et je l'ai pas trouvé prétentieux.
Et ça fait quoi d'être dans le patrimoine ? Parce que vous êtes patrimoine,
voilà,
ça fait quoi ?
Eh bien, je vous dis, avec modestie, je suis dans le patrimoine, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres artistes. Je suis un artiste très, très, très populaire, au sens propre du mot.
Et un artiste qui remplit encore beaucoup, beaucoup de salles. Samedi soir, vous allez donc remonter sur scène à la scène musicale près de Paris. Est-ce que lorsqu'on s'appelle Hugo Frey, qu'on a votre parcours, qu'on a votre carrière, qu'on a votre expérience, on a encore la pétoche avant un concert ? On a encore le trac ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Non, si, le souci, là, dans ce cas précis, vu qu'après presque 2 ans d'arrêt, je reprends la scène avec des nouveaux musiciens, avec 7 nouvelles chansons, etc., et un minimum de répétition, je suis conscient que je prends de risques, mais quand je monte sur scène, j'ai la même chose que quand j'avais 20 ans, c'est le plaisir de chanter pour des gens qui vous aiment. Et les gens qui vous aiment, on leur doit beaucoup. Et donc je suis heureux, j'ai pas peur d'eux.
Vous n'avez pas peur d'eux ? On va écouter un extrait de,
je les aime.
De cet album.
Réciproque.
Dan Stucker, vous allez chanter celle-là.
Sa gueule de vieux briscard,
oui. Qui se lève qui se lève tôt, qui se couche tard, c'est moi, ça.
C'est vous ?
Ah oui, c'est le secret.
Non, ça n'y comptait pas. Vous dormez pas beaucoup, en fait.
Je dors pas beaucoup et ne comptez pas que je vais rentrer chez moi, vieux. Non, 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 je continue.
On sent que vous vous amusez avec tout ça, même dans vos chansons.
Mais
même
bien sûr. Vous savez, quand on dit qu'on joue la guitare, on dit pas « je travaille la guitare ». Ouais. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Je joue du piano, je joue de la musique. Un comédien, il joue la comédie.
Vous n'êtes jamais pris au sérieux ? Il n'y a pas des moments où vous avez pris la grosse tête là,
jamais.
Quand vous étiez... jamais.
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 Jamais. Mais j'ai jamais eu la petite tête.
Est-ce que vous avez peur de ne plus remonter sur scène avec cette épidémie, là, avec ces deux ans ? Est-ce que vous avez peur de vous dire
pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Vous étiez persuadé que ça reviendrait ?
Oui, oui, j'en suis sûr. Alors. Ouais. Là, en ce moment, j'ai un petit peu un problème de ce qu'on appelle une sciatique, c'est-à-dire un truc, vous savez, la colonne vertébrale qui coince le nerf sciatique, c'est assez douloureux. Là, j'étais un peu embêté parce que mais je me fais soigner.
Mmh. Et vous n'avez jamais eu la petite tête, vous avez toujours dit ce que vous vouliez dire à votre manière.
Voilà.
Hein, la politique, en fait, vous en avez toujours fait sans en avoir l'air. Quand, par exemple, en 68, vous sortez ça en pleine révolution étudiante. Dis-moi. Non, ça, c'est Céline. Non, c'est adieu, monsieur le professeur.
Voilà. Tiens, il y a le petit Jérémy, là, qui a fait The Voice.
Ouais.
Et qui avait été sélectionné en chantant à sa façon adieu, monsieur le professeur.
Et ça aussi, vous l'avez suivi, ça ?
C'est la seule chanson contestataire de mai 68. C'est ce que j'ai dit à Renaud un jour. J'ai dit, avec tes chansons révolutionnaires, tu étais dépassé complètement par le temps. Parce que Dylan avait dit « Times are changing », les temps changent, dans les années 64, 5.
Ouais, ouais.
Et la révolution, c'est en mai 68. Mais « Adieu, monsieur le professeur », c'était une chanson contestataire où je prenais le parti de soutenir les enseignants.
C'est ça.
Et alors que les
étudiants... À l'époque
étudiants,
où les étudiants étaient dans la rue, exactement. Voilà, voilà. Mais de toute façon, vous, la révolution, ça n'a jamais été votre truc. Hein.
Je suis anti-révolutionnaire et je suis pour les réformateurs.
D'accord.
Je suis un réformateur.
Au fait, vous avez voté au régional dimanche dernier ou pas, vous ?
J'ai voté, oui.
Vous êtes allé voter ?
Ouais. Oui, bien sûr.
Les abstentionnistes, parce qu'on n'est pas nombreux à être allés voter, vous les comprenez ou vous les comprenez pas ? Vous les condamnez ?
Moi, je trouve qu'en France, c'est un peu dommage je trouve qu'on fait beaucoup trop de politique, il y a trop de gauche, trop de droite.
Oui.
Et maintenant, ils passent leur temps à se battre pour le pouvoir. Au lieu de s'occuper des gens, ils s'occupent de comment je vais arriver à battre l'autre. On ne vote pas pour quelqu'un, on vote contre quelqu'un. Ouais.
Et vous arrivez à voter pour quand vous, je vais pas vous demander pour qui vous avez voté, mais vous arrivez à voter pour, vous adhérez ou vous votez contre les autres ?
Ben non, je vote pas contre les autres, mais j'essaye de soutenir quelqu'un qui arrive avec des idées. Moi, celui qui va dire que il faut soutenir la recherche scientifique dans la recherche de l'énergie nucléaire, l'énergie nucléaire de la fusion.
Ouais, la fusion nucléaire.
Ben je vote pour lui.
Vous votez pour lui.
Parce
d'accord.
que l'avenir de l'humanité, c'est la fusion nucléaire. Mmh. Donc tous les gens qui sont contre le nucléaire,
ils sont éliminés
mauvais pour la société.
Ils sont du mauvais côté pour vous. Vous savez ce que Coluche disait de vous, évidemment. Dès qu'on allume un feu de camp, on voit apparaître Hugo Frey. Vous êtes très populaire, très très populaire. Vous avez aussi parfois été moqué. Est-ce que ça a pu vous toucher ou vous blesser,
ça ?
Pas
du tout, pas du tout. J'ai jamais été scout et aujourd'hui, jamais été scout parce que mes parents n'ont pas mis au scoutisme. Mais aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a un renouveau qu'il faut vraiment soutenir ce genre de mouvement qui est complètement moderne. Parce que Baden-Powell, c'est l'inventeur de l'éducation telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire les rapports des enfants entre eux, le rapport des hommes, des jeunes avec la nature, avec les animaux, le respect de la nature, c'est vraiment ce qui manque à la jeunesse.
Donc aujourd'hui, vous pourriez être scout, vous ?
En tous les cas, je soutiens le scoutisme.
Ouais. Voilà. Et vous avez le sentiment que le milieu du showbiz vous a fait la place que vous méritiez ou pas ? Vous êtes toujours laissé un peu... vous n'avez pas la carte, comme on dit.
Il y a du vrai dans ce que vous dites. Et j'ai aucune amertume de ma part, et parce que c'est bien fait pour moi. Parce que je veux dire que j'ai rien fait pour rentrer dans ce système sans le mépriser.
Ouais.
Je ne suis pas anti-show, comme les gens disent. Un mot que je déteste, les gens qui utilisent le mot fric.
Fric.
Ouais, fric. Le show business, fric.
Ouais.
Enfin, moi, je déteste ça. Moi, je chante, je suis très content d'être payé pour avoir pu nourrir ma famille avec les chansons. Mais je suis pas du tout, people, quoi. Qui fait. Alors, évidemment, c'est normal que je sois pas en première page, ni de match, ni de gala.
En fait, on a l'impression que tout glisse sur vous. Comme... C'est peut-être ça votre secret de jeunesse.
Un petit peu.
Vous encombrez pas l'esprit.
Vous savez quel est l'animal symbole que j'ai choisi pour me... me réincarner.
Non.
Le canard sauvage.
Le canard sauvage.
Oui, à col vert.
Vous aimeriez vous réincarner en canard sauvage.
Oui, parce que ça vole très haut, ça vole très longtemps,
ouais.
C'est très bien, ça marche, ça va dans l'eau, ça va sous l'eau, c'est sympathique, c'est joli, ça a des belles couleurs. Et puis quand
et puis, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.
Et puis quand il pleut, il n'est pas mouillé.
Ouais.
Et puis il peut aller, il patauge dans la gadoue, il est toujours propre. Ça, j'aime beaucoup cette image.
De quoi vous rêvez aujourd'hui, Hugo Frey ?
De pouvoir avoir assez d'années devant moi pour pouvoir... Je vous ai parlé de dettes, je pense que les gens ont compris que je dois beaucoup de choses à beaucoup de gens,
ouais,
qui m'ont aidé, même s'ils ne sont pas là. Mon frère qui m'a élevé à la place de mon père.
Francesco. Qui s'est suicidé quand il avait 27 ans.
C'était le grand drame de ma vie. Eh bien, je lui dois beaucoup. Et l'autre jour, quand je chantais à Pleyel, que les deux salles de Pleyel étaient pleines, je me disais, mon frère m'avait dit, sans que je puisse comprendre pourquoi, quand j'avais 16 ans, il m'a dit un jour, tu seras concertiste. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas lire la musique, je ne suis pas pianiste, rien. Cette espèce de vision qu'il a eue de moi, je rentrais sur la scène de Pleyel, où j'allais avec mon frère pour voir les grands chefs d'orchestre diriger Moussorski, Beethoven, et je dis, et d'un seul coup, je suis devenu ce qu'il voulait.
Le temps qui reste, ça vous inquiète ou ça vous enthousiasme? Le temps qui vous reste. Le temps qui nous reste
à compter. Il est compté. Je sais qu'il est compté, mais j'ai rencontré Thomas Pesquet,
ouais,
et je peux vous dire que je suis tout à fait proche de ces gens qui. Et j'ai écrit une chanson pour Thomas Pesquet qui sera dans le spectacle.
Donc samedi.
Oui, oui. Ouais. Spécialement, il l'a emmené avec lui dans la fusée. Et je dis, Thomas Pesquet, c'est une mission scientifique, qu'il fait un travail de recherche pour les enfants, les petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, qui peut-être connaîtront, parce que pour arriver à réaliser la fusion la fusion nucléaire,
oui,
parce qu'on est au niveau fission.
Ouais, ouais.
Pour arriver à la fusion, il faut encore 50 à 60 ans.
Moi, je crois que vous avez une deuxième vie qui arrive derrière de scientifique et de chercheur dans le nucléaire. On termine avec quelques notes de Céline. Est-ce que c'est vrai cette histoire de Céline Dion qui s'appellerait, ouais, Céline grâce à vous? C'est vrai? À cause de cette chanson?
Non, elle doit la vie à cette chanson. Et oui, puisque quand elle est la 13e enfant de cette, ouais, famille, quand sa maman avait 12 enfants et qu'on lui a annoncé qu'elle était enceinte, elle a dit à son mari, on n'a pas assez d'argent, on est trop pauvre, on ne peut pas garder le bébé. Elles ont décidé, donc, malgré ses idées religieuses très, très sectes, très sérieuses, ouais, elle a décidé de ne pas garder le bébé. Et elle a entendu la chanson. Elle a été bouleversée, elle a dit à son mari, on garde le bébé, si c'est une fille, elle s'appellera Céline. Ça, c'est la vraie histoire.
C'est génial. Vous êtes un peu le père de Céline Dion, en quelque sorte.
Oui, oui, oui.
Hein, c'est ça.
Oui, oui, c'est vrai.
Vous êtes vacciné?
Les deux côtés, oui.
Les deux côtés?
Gauche
moi
et droite.
Aussi. Moi aussi. Je peux vous faire un bisou?
S'il vous plaît.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est formidable. Merci.
Merci beaucoup.
Thomas, c'est quelque chose, Thomas
beaucoup,
Soto.
Hugo
c'est
Frey.
Pas n'importe qui, Thomas Soto.
Vous serez en concert le samedi 26 juin à la scène musicale. Vous serez aussi à 7 le 18 août et puis cet automne à Montélimar le 2 octobre, le 16 à Béziers, le 30 à Sanary, le 5 novembre à Forges-les-Eaux, etc., etc. On rappelle aussi votre dernier album, Autoportrait, disque d'or, s'il vous plaît. Et surtout, on vous remercie beaucoup, beaucoup,
c'est
beaucoup
moi,
d'être passé nous voir ce
moi
soir.
Merci Thomas.
Merci Hugo Frey.
Merci mille fois.
Dans un instant, après Céline, ce sera la culture de l'actu, Julien Molcou.
Ce gentil fiancé qu'on n'a jamais revu, est-ce pour ne pas nous abandonner que tu l'as laissé s'en aller?
Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
18h53, France-Portugal, c'est du foot ce soir évidemment. France-Portugal, c'est aussi de la culture. Bonsoir Julien Molcou.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Vous avez choisi votre camp, celui des Lusitaniens. Hein, c'est ça, vous êtes côté portugais ce soir.
Un extrait de la Portugaise, l'hymne national portugais depuis 1911. Alors le Portugal a été fondé en tant que pays à proprement parler au XIIe siècle. Mais les premières traces de civilisation, elles, remonteraient à 22 000 avant Jésus-Christ.
ça fait loin.
Et c'est au 15e siècle que le Portugal va prendre toute sa place sur la scène européenne, puisqu'il va jouer, comme chacun sait, un rôle majeur dans les explorations maritimes qui vont cartographier la planète. C'est ce qu'on appellera les grandes découvertes. Alors évidemment, on doit la découverte de l'Amérique un peu par hasard aux Génois, Christophe Colomb pour le compte des Espagnols, mais on peut citer nombreux marins portugais. Magellan, par exemple, qui va découvrir le détroit qui porte son nom, ainsi que l'archipel des Philippines. Alvise Cadamosto, qui va découvrir le Sénégal, ou encore, bien sûr, Vasco de Gama, considéré comme étant le premier navigateur européen à arriver en Inde. En quelle année ?
Alors, je sais pas.
1498.
Et ben voilà. Conduisez-moi dans ce navire.
Très court extrait de l'acte 4 de l'opéra Vasco de Gama signé Meyerbeer. La culture portugaise est très riche et marquée des peuples qui se sont installés sur le territoire actuel. Les Romains, les Germains ou encore les Arabes, mais aussi par ces anciennes colonies dont on retrouve les influences dans l'architecture, la littérature, le vocabulaire, la cuisine et bien sûr dans la musique. Bien sûr que le fado est le style musical le plus emblématique du Portugal, ce chant mélancolique qui fut même le chant national à l'époque de la dictature de Salazar. Et si le fado de Coimbra qu'on entend là ? Ce fado a longtemps été chanté exclusivement par des hommes, et bien celui de Lisbonne, lui, a largement dépassé les frontières du Portugal, notamment avec Amália Rodrigues, bien sûr, flambeau repris depuis par la sublime Ana Moura.
E o meu fado era inter fado nenhum, cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum.
Ça donne le sourire tout de suite.
Super.
Mais il n'y a pas que le fado au Portugal, il y a le rock aussi. Et si on doit à Joaquim Costa, qu'on appelait l'Elvis de Campolide, qui est un quartier du nord de Lisbonne, on lui doit le premier disque de rock portugais, bon, édité seulement à 2 exemplaires.
Deux ?
Oui, 2. Ah. Mais j'en ai pas trouvé plus. Et bien n'empêche que c'est à Rui Veloso, qui est considéré comme le père du rock portugais, qu'on doit donc ce mouvement. Et puis aujourd'hui, l'une des grandes stars de la chanson portugaise s'appelle António Zambujo. À 45 ans, ce chanteur, guitariste, compositeur puise son inspiration autant dans le jazz que les chansons folkloriques, la musique brésilienne ou encore le fado. Et je dois vous avouer que je l'ai découvert aujourd'hui et que je l'ai adoré.
Se já não me pensa, quando estás sozinho.
J'aime bien. Et António Zambujo sera en concert demain soir au Rodour à Saint-Martin-des-Champs dans le Finistère.
Vous m'avez donné envie d'aller au Portugal. Oui, ouais, presque donné envie que les Portugais gagnent ce soir. Je vais me faire découper si je dis ça, mais j'avoue. On va en mettre un tout petit peu à Ana Moura quand même. Merci Julia Molcou.
Merci.
On va la garder le temps de la météo.
Oh, j'adore.